Chapitre 7. L'orage et ses suites. Le goûter avait été servi sur une large table de pierre placée dans une charmille aux ombrages touffus. Après avoir, avec beaucoup d'appétit, mangé de bonnes miches de pain à moitié bis, de ce pain de ménage cuit au four de la ferme, en l'accompagnant de crème et de fruits, grands et petits avaient écouté cette histoire du vieux temps trouvée par M. Dumont dans des livres à moitié rongés par les rats. Puis M. de Valry s'avisa de demander à son hôte pourquoi sa propriété s'appelait le Capricorne. « Parce que, lui répondit celui-ci, je l'ai acheté le 21 décembre, jour désigné par les astronomes, pour l'entrée du soleil dans ce signe du zodiaque. » Cette demeure n'avait pas de nom. Mon almanach s'est ainsi chargé de me le fournir. Blanche et sa sœur, trouvant la conversation trop sérieuse, étaient sorties de la charmille, espérant entraîner à leur suite les trois garçons. Au lieu de cela, ce furent elles qui revinrent en courant annoncer que le ciel était noir comme de l'encre et qu'elles avaient entendu le tonnerre grogner dans le lointain. Maurice. Mademoiselle Hélène qui a entendu le tonnerre grogner. C'est gronder qu'il faut dire. Hélène. Je sais ce que je dis. Gronder, c'est quand il a l'air en colère, qu'on entend boum, boum, de temps en temps. Mais dans ce moment-ci, il fait absolument comme un chien au fond de sa niche. Comment ferons-nous pour nous en aller? C'était bien cela qui tourmentait les visiteurs de M. Dumont. « Il faut partir tout de suite, » disait M. de Valry. « Bien certainement, » reprenait sa femme, « si nous pouvions tous tenir dans le landau. Mais jamais nous ne pourrions y entasser les quatre enfants en surplus. « Surtout, surtout, » ajouta-t-elle tout bas, « avec M. de Livry. Songez donc qu'à lui seul, il tient deux places. » M. Dumont, à son tour, prit la parole. « Permettez-moi de donner mon avis. Je connais la marche des orages dans ce pays-ci, et je puis vous assurer que celui qui se prépare sera terrible. Il y aura, je crois, beaucoup de grêle. Elle tombera d'ici à une demi-heure, et il y aurait un réel danger à vous mettre en route. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller donner quelques ordres pour qu'on mette à l'abri tout ce qui pourra être préservé. On va aussi dételer votre voiture, la mettre dans une grange et vos chevaux à l'écurie. » Blanche. « Et nos ânes, monsieur ?» Monsieur Dumont. « Les ânes aussi, ma petite demoiselle, soyez tranquille. » Pendant que le propriétaire s'en allait ainsi veiller sur son bien, sa femme ramenait à la maison toute la compagnie, se demandant si l'orage durerait longtemps. « Dans ce cas, pensait-elle, je devrais offrir à dîner, et que pourrais-je bien donner? Ce serait honteux de présenter un haricot de mouton à des personnes habituées à avoir sur leur table des plats nombreux et distingués. Cependant, je n'ai que cela absolument, et comme le boucher m'a mal servi, il n'y a guère que des os et du gras. » J'ai envie, en tout cas, de faire tuer un poulet et un canard, en leur faisant avaler une cuillerée de vinaigre auparavant, ce qui empêcherait qu'ils ne soient trop durs. Il faudrait bien toutefois que je puisse savoir si M. Dumont serait de cet avis-là. Car si ces volailles n'allaient pas servir, et par ces temps d'orage se gâter, quelle perte pour nous! La pauvre maîtresse de maison était si préoccupée qu'elle ne pensait plus à causer avec Mme de Valry ou Miss Lagie. Quant aux messieurs, ils jetaient au vent les dernières bouffées de leurs cigares en examinant les gros nuages qui s'avançaient sur la vallée. « Il commence à pleuvoir, mesdames, » dit tout à coup M. de Livry de sa bonne grosse voix. Madame Dumont en tressaillit et répondit. « Tant mieux, l'orage sera plutôt fini. » Puis, craignant qu'on ne devinât pourquoi elle désirait que l'orage ne durât pas longtemps, elle ajouta. « Vous avez peut-être laissé quelqu'un à Trouville que votre absence inquiéterait ?»« Mon Dieu, non, madame, » se hâta de répondre M. de Livry. « Nous pourrions coucher hors de la Villa des Roses, sans que personne en fût tourmenté. Au contraire, mon ami, dit à son tour Madame de Valry, mes domestiques en auraient la tête à moitié perdue, et mon petit Marcel, la petite Lily, comme il serait triste en ne nous voyant pas revenir pour le dîner, je voudrais bien partir dès que ce sera possible. Elle tira à l'écart Monsieur de Livry et lui dit, c'est fort mal de taquiner cette pauvre maîtresse de maison en lui faisant croire que nous pourrions rester ici. Ne voyez-vous pas qu'elle est bouleversée par la crainte de nous voir prolonger cette visite jusqu'à l'heure du dîner? Ce serait si drôle de voir quel repas nous ferions, répondit le vieux garçon. Moi, j'aime les aventures. Aimez-vous aussi la grêle? Alors restez ici. Moi, je me réfugie dans la maison où mes enfants ont eu l'esprit d'arriver avant nous. Dépêchons-nous, Miss Lagie. Et hâtant le pas, Madame de Valry ainsi que l'institutrice entrèrent bientôt dans le vestibule. Madame Dumont avait profité d'un moment où on ne la regardait pas pour se sauver consulter son mari au sujet du poulet et du canard. Je crois maintenant que nous ne pouvons pas faire autrement, répondit avec un soupir le vieillard aussi avare qu'original. Cela dérange l'ordinaire de mes dépenses. Il faudra redoubler d'économies, ma femme, pour réparer la perte de ces deux bêtes que j'aurais bien fait vendre au marché. » Madame Dumont, qui avait 30 ans de moins que son mari, courut vivement parler à la fermière, et lorsqu'elle revint, les grêlons lui cinglaient la figure de façon qu'elle dut mettre la jupe de sa robe au-dessus de sa tête afin de s'en préserver. Des vitres furent brisées, les arbres dépouillés de leurs feuilles et, qui pisaient, de leurs fruits. Le tonnerre roulait sans interruption. C'était un effrayant spectacle. Blanche, tout impressionnée, pleurait. Miss Lagie la prit sur ses genoux en essayant de la rassurer, et Maurice fut mal reçu lorsqu'il entreprit de se moquer de ce qu'il appelait la poltronnerie de sa sœur. Hélène et Léon se demandaient de leur côté ce que Jacques pouvait être devenu, quand ils le virent revenir avec un énorme volume, de ceux qu'on appelle in-folio, si lourd qu'à peine pouvait-il le porter. Sans s'occuper des autres enfants, il le posa par terre, l'ouvrit, et pour le lire plus commodément, se mit à plat ventre sur le carreau. Pour le coup, Maurice laissa Blanche à ses terreurs et vint se poster devant le jeune Dumont, afin de découvrir ce qu'il absorbait si complètement. Après avoir lu à l'envers plusieurs mots tracés en grosses lettres, il fit une pirouette et alla trouver son frère. Ce garçon est vraiment par trop curieux. Il lit la description d'un orage dans un auteur latin, sans doute pour voir si celui-ci est bien pareil à la description. Est-il drôle, le nez tellement collé sur les feuilles du livre, qu'il pourrait s'en servir pour les tourner? À peine Maurice avait-il terminé cette réflexion, que celui qui en était l'objet faillit être écrasé. Son père, entrant vivement par la porte, tandis qu'un éclair jaillissait de la fenêtre, en fut tellement ébloui qu'il ne vit pas son héritier aplati presque sous son pied. Il le poussa même du bout de son soulier. L'enfant se releva d'un bond, s'éclipsa par la porte laissée entr'ouverte, dans la crainte d'être grondé pour avoir été surpris dans cette posture avec ses habits propres, et laissa le gros livre à terre. Sur ce livre tombèrent tout de suite les regards de M. Dumont, et sa bibliothèque étant ce qu'il avait de plus cher au monde, il se pencha sur l'in-folio d'un air rempli d'indignation. Il se fut certainement mis en colère sans la présence de ses hôtes, mais ayant l'idée que ce pouvait être un des enfants qui s'était emparé du volume, il n'osa se fâcher. Il le prit seulement entre ses bras pour le remettre en place, et ce soin, une fois accompli, montra à la société ses vêtements ruisselants d'eau, rien que pour avoir traversé la cour. « Le ciel est dans toute son étendue, noir comme de l'encre, dit-il. L'orage n'est pas prêt de finir. » C'était bien, hélas, ce dont sa femme était convaincue. Aussi restait-elle à faire des préparatifs avec la bonne et la fermière. Nicolas avait suivi celle-ci dans la maison des maîtres en offrant ses services. Ils furent acceptés, et sans façon, en domestique bon enfant, il avait attaché un torchon au bas de son gilet rouge pour recevoir les plumes du canard qu'il plumait. La fermière tenait l'autre volaille alors que la cuisinière, en attendant le moment de les faire cuire, essuyait les assiettes que sa maîtresse sortait d'une armoire, où depuis longtemps elles étaient en réserve, car une douzaine, plus ou moins ébréchée, servait à l'ordinaire de la famille. Quand Madame Dumont vit la besogne bien en train, elle se décida à reparaître au milieu du cercle formé au premier étage et à lancer son invitation à dîner. Elle trouva Jacques dans l'escalier. « Pourquoi, lui dit-elle, n'es-tu pas avec les enfants de Valerie ?» Jacques lui conta ce qu'il avait fait et sa peur d'être grondé par son père. « Tu l'aurais été certainement, lui dit sa mère, pas seulement pour ta tenue peu convenable, mais aussi pour avoir pris un livre sans sa permission. Il ne faut jamais le faire, tu le sais. »« Oui, maman, c'est dommage. » Madame Dumont entra dans la bibliothèque, suivie de son fils. Un instant après, il fut décidé d'un commun accord qu'il y aurait ce soir-là 11 personnes assises autour d'une table dans la salle à manger du Capricorne. Cela ne s'était jamais vu. Aussi, le tonnerre, cause de cet événement, l'annonçait-il à coups redoublés. « Savez-vous, miss, dit Blanche à son institutrice, que je m'ennuie beaucoup ici. Je suis sûre qu'Hélène et mes frères ne s'amusent pas davantage. Ils ne font que bâiller. Regardez-les. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de quitter cette pièce ?»« Peut-être, lui répondit-on, si nous allions demander à Madame Dumont de l'aider dans ses préparatifs. Cela nous ferait remuer un peu. » Les Anglaises savent généralement confectionner bien des mets. Miss Lagie, tout particulièrement, faisait à merveille la pâtisserie. Bientôt, installée dans un coin de la vaste cuisine, ses mains pétrissaient la farine, cassaient des œufs et formaient des tartes superbes. Hélène et Blanche allaient et venaient, apportant tout ce dont elles avaient besoin. Pendant ce temps-là, Nicolas dressait la table à sa fantaisie. Chez ses maîtres, il avait appris un service à peu près correct, surtout parce que Mariette passait souvent derrière lui pour surveiller son ouvrage, ce qui empêchait de s'apercevoir de bien des bévues. Mais n'ayant plus au Capricorne les objets dont il se servait habituellement, il imagina d'y suppléer à sa façon. La salle à manger était tellement entourée d'arbres que c'était ordinairement une pièce sombre. De plus, les nuages amoncelés obscurcissaient encore le jour, de sorte qu'il était essentiel de se procurer de la lumière. Madame Dumont possédait 6 bougies et la fermière 2 chandelles. C'était peu. La table ne serait pas étincelante avec ce luminaire. Mais enfin, on verrait ce qu'il y aurait dans les assiettes. Seulement, grand embarras, il n'y avait que 4 flambeaux dans la maison. Nicolas ne se troublait pas pour si peu. Il les orna de 4 bougies, puis celles qui restaient, ainsi que les chandelles, furent plantées dans 4 bouteilles et régulièrement placées sur la table. Il était près de 7 heures lorsque le dîner fut cuit. L'orage avait cessé, mais il eût été désagréable de tourner le dos à la bonne odeur qui sortait de la cuisine. Et puis, ainsi que le fit observer M. Dumont, les routes pour sortir du Capricorne auraient été impraticables. « Il faudra au moins 2 heures, disait-il, pour que le trop-plein d'eau se soit écoulé. Encore ne pourrez-vous pas vous en retourner par le chemin pris en venant, j'en indiquerai un autre au cocher. » Le repas fut très gai. M. de Livry, qui avait demandé en grâce qu'on fît une omelette au lard, déclara n'en avoir jamais mangé d'aussi bonne, et but à la santé du maître du logis, avec l'excellent cidre mousseux qui circulait à la ronde. Les enfants de Valerie, non habitués à cette boisson, faillirent se griser comme avec du champagne. Ils étaient d'une animation très bruyante, malgré les
« Not so much noise »
ou les
« Sit still »
« Ah, bien oui, pas tant de bruit » ou « Tenez-vous tranquille, ce n'est pas chose facile quand une foule d'accidents drôles donne à chaque instant envie de rire. » D'abord, Maurice, voulant voir ce qu'il y avait dans son assiette, prit une des bouteilles servant de flambeau. La chandelle, mal assujettie, tomba dans son potage. Un hurlement d'horreur accueillit cette chute. « Dépêche-toi de la retirer. Elle va fondre, et ce serait une lumière de moins, » s'écria M. de Valerie, tandis qu'avec la mine la plus dégoûtée, le jeune garçon préparait 2 doigts pour sortir la chandelle de son bain improvisé. Inutile de dire qu'on changea l'assiette de soupe. Quelques instants après, Nicolas, se tenant derrière M. Dumont, avait à la main le cruchon de cidre qu'il s'apprêtait à offrir aux convives. Ses yeux étaient fixés sur M. de Livry, qui parlait, son attention attirée par le désir de comprendre ce qui se disait, de sorte qu'il ne s'occupait pas du cidre dont la mousse commençait à paraître au bout du goulot. Peu à peu, elle déborda, goutte à goutte d'abord, sur le crâne situé au-dessous. M. Dumont, ne voulant pas interrompre la conversation et pensant que ses toits étaient en mauvais état, cela pouvait être de la pluie, sortit son mouchoir de sa poche et s'essuya la tête. Par 3 fois, il recommença, mais la mousse, se gonflant davantage, finit par tomber en un flot d'écume sur le nez pointu du père de Jacques. Il fit un tel soubresaut qu'il se cogna au malencontreux cruchon qui, pour le coup, se vida tout à fait en arrosant tout alentour. Impossible de garder son sérieux, même aux grandes personnes qui pinçaient les lèvres pour s'empêcher de rire. Monsieur de Valery tensa vertement Nicolas sur son manque de soin et jeta un regard sévère du côté des enfants, afin qu'ils étouffassent mieux leur gaieté. Elle fut à son comble quand la cuisinière et la fermière vinrent, à la suite l'une de l'autre, apporter, manches retroussées, les tartes de Miss Lagie en disant « Salut à la compagnie !» Le dessert fut abrégé parce que ceux qui tenaient à retourner à Trouville trouvaient qu'il fallait se hâter d'organiser le retour. Monsieur Dumont prêtait sa fameuse petite charrette à Anne, celle de laquelle il était sorti à sa première rencontre avec la famille de Valery. On allait y atteler 2 des Baudets qui avaient servi de monture en venant, et Nicolas devait la conduire avec les 4 enfants, installés dedans sur un petit matelas. Ce n'était pas mal imaginé. À 8h30, on se mettait en route. Auparavant, il s'était passé plus de 5 minutes en poignée de main et en remerciements. En voyant les voitures s'en aller, Madame Dumont pensait à ceux qu'elles emportaient. « Ils sont bien bons, bien aimables, très simples, se disait-elle, mais dans quel bouleversement est la maison? Je ne pourrais pas commencer ma lessive demain. » Son mari murmurait entre ses dents. « Un canard, un poulet, 28 œufs, 2 livres de beurre, Un pain de 6 livres, du lard, gogo et toutes les autres choses. Voilà un orage qui me coûte bon. À part cela, ces gens-là sont fort gracieux. Jacques, fatigué d'avoir tant joué, entendu tant de bruit, rêva toute la nuit qu'il jouait encore et pensa longtemps que ces enfants-là savaient bien s'amuser.